Vous êtes bien sûr à RFI, il est 5h30 ici à Paris, 4h30 à Kinshasa, 3h30 en temps universel.
Fabien Albert.
La République démocratique du Congo à la une. 25 militaires ont été condamnés à mort hier par un tribunal militaire du Nord Kivu, accusés de désertion face aux rebelles du M23 qui progressent à l'est. Le récit de notre correspondant à Goma dès le début de ce journal. Vous entendrez aussi le coordonnateur humanitaire de l'ONU dans le pays qui déplore une situation humanitaire catastrophique. Catastrophique, la santé économique du Soudan du Sud l'est également. La crise s'aggrave, plus la guerre au Soudan voisin dure. Djouba, dont les exportations de pétrole vital pour son économie ont chuté de 60%. Des manifestations ont eu lieu ces derniers jours. Et puis, en Afrique du Sud, le gouvernement d'Union Nationale a prêté serment alors que l'entraîneur des Mamelodi Sundowns, Rulani Mokoena, lui, a pris la porte. 25 militaires condamnés à mort hier en République démocratique du Congo. Ils comparaissaient en flagrance devant le tribunal militaire de garnison de Butembo dans le Nord Kivu pour fuite devant l'ennemi, dissipation de munitions de guerre, vol ou encore violation des consignes lors des récents combats contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Arrêtés ce mercredi, ils ont été jugés le jour même en audience foraine près de la ligne de front dans le village d'Alibongo. Plus de détails avec notre correspondant à Goma, Héritier Baraka.
Les prévenus étaient au nombre de 31, dont 27 militaires et 4 civils, des épouses des militaires. Ces soldats étaient soupçonnés d'avoir abandonné leur position. Alors que l'armée congolaise, appuyée par les groupes armés locaux, fait face aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Ces derniers se sont emparés de plusieurs localités sur la route menant vers la grande ville de Butembo. Comme un symbole, l'audience foraine de ce mercredi s'est tenue à Alimbongo, dans les territoire de Rubero, à quelques kilomètres de la ligne de front, dans une agglomération désertée par ses habitants. Gilles Veco, avocat de la défense, a indiqué son intention de faire appel de la décision du tribunal, même s'il ne cache pas qu'il y a peu d'espoir que cela aboutisse pour tous les condamnés.
25 sont condamnés à la peine de mort. Nous, en tant qu'avocats, avons vu cela, mais nous trouvons que les faits ne sont pas suffisamment établis à leur égard. Nous supposons qu'avec l'appel, nous pourrons avoir gain de cause pour certains, mais pour d'autres, il n'y a pas d'espoir.
Outre les charges retenues contre eux, certains d'entre eux sont accusés par les populations et la société civile locale d'avoir pillé des biens des villageois. Les autres accusés, dont les 4 femmes, ont été acquittés faute de preuves, a précisé Maître Gilles Veco, Héritier Baraka, Goma, RFI.
Les rebelles du M23 soutenus par Kigali qui continuent donc leur progression au Nord Kivu, après avoir pris vendredi dernier la ville de Kanyabayonga qui se trouve à 150 km au nord de Goma, les rebelles continuent d'avancer sur cet axe routier qui mène vers le nord de la province et l'importante ville commerciale de Butembo, une avancée qui provoque d'importants déplacements de population et des besoins humanitaires énormes. C'est ce que déplore le coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC, Bruno Lemarquis. Il est joint par Alexandra Brangeon.
Il y a maintenant à peu près 500 000 de personnes déplacées dans le territoire de Lubero. Et les pourcentages parlent mieux. Au Nord Kivu, plus de 30% de la population de la province est déplacée, ce qui fait à peu près 2,8 millions de personnes. Au Sud Kivu, où il y a aussi des afflux de déplacés du fait des avancées du M23, il y a plus de 20% de la population du Sud Kivu qui est déplacée. Et dans la province de l'Ituri, donc au nord-est de la République démocratique du Congo, 40% de la population est déplacée. Donc c'est vraiment énorme. De manière plus générale, on a récemment passé, il y a quelques semaines, le cap des 7 millions de personnes déplacées internes en RDC. C'est le deuxième pays au monde pour le nombre de personnes déplacées internes après le Soudan. Donc c'est vraiment un chiffre affolant. Les besoins humanitaires sont en conséquence gigantesques et continuent à chaque fois à s'agrandir. La réponse humanitaire fait ce qu'elle peut, mais il y a vraiment beaucoup de défis auxquels on fait face, des défis d'accès, des défis de sécurité et également, il faut le mentionner, des défis de financement.
Bruno Lemarquis, coordonateur humanitaire de l'ONU en RDC, entretien extrait du dossier d'Afrique Soir à retrouver sur notre application RFI Pure Radio ou notre site www.rfi.fr, onglet Afrique. Toujours en République démocratique du Congo, au moins 4 ressortissants chinois ont été tués hier matin dans une attaque contre un site minier en Ituri. Cet assaut a été mené par le groupe armé Codeco, selon des sources locales citées par l'AFP. Cette milice communautaire affirme défendre les intérêts intérêts de la tribu Lendu face à la tribu rivale des Hema. L'incursion meurtrière a pris pour cible un site minier situé non loin de la localité d'Abombi dans le groupement de Ouazabo du territoire de Djougou. Les militaires des forces armées RDC auraient également été blessés ainsi que des civils congolais. D'autres personnes auraient été kidnappées au cours de l'attaque. Les Sud-Soudanais en colère contre la cherté de la vie, les fonctionnaires n'ont pas été payés depuis plus de 8 mois. Crise économique aggravée par la guerre au Soudan voisin. Le conflit a conduit à l'arrêt de plus de 60% des exportations de pétrole du Soudan du Sud. Ces pétrodollars constituent plus de 90% des revenus de l'État. Les grèves et manifestations se multiplient. Ce mardi, c'était les enseignants de l'université de Rumbek, dans le centre du pays, qui étaient dans la rue Florence Mietto.
C'est la dernière manifestation en date depuis qu'un vent de protestation semble souffler sur le Soudan du Sud. Boldeng Bol dirige l'organisation de la société civile Intrepid South Sudan, basée à Bor, la capitale de l'état du Jonglei, à l'est du pays, où deux manifestations ont eu lieu les 17 et 24 juin dernier pour protester contre l'augmentation du coût de la vie.
Les prix sont très élevés sur le marché. Il y a des facteurs aggravants comme l'insécurité qui empêchent les gens de sortir de la ville pour cultiver et améliorer leur quotidien. Ou encore les taxes élevées sur les petits commerces, sans parler du retard des salaires. Tout cela a contribué à rendre la vie très chère avec une inflation extrêmement élevée.
Pacifique, les manifestations ne sont pourtant pas du goût des autorités à bord. Plusieurs manifestants ont été questionnés par les services de sécurité et Abraham Aleo Agnet, un journaliste de la télévision publique, a été arrêté à son domicile le soir du 26 juin à bord.
Tout comme les traités internationaux, notre constitution garantit pourtant ce droit, cette liberté de se rassembler de façon pacifique et d'exprimer notre opinion en tant que citoyen.
Recherché, Boldeng Bol se cache actuellement pour échapper aux services de sécurité. Ce, alors que les parlementaires sud-soudanais ont adopté une loi controversée ce mercredi 3 juillet autorisant des arrestations sans mandat par les services de sécurité. Florence Mietto, Juba, RFI.
Un chiffre pour illustrer la crise économique en cours au Soudan du Sud. Selon la Banque mondiale, le pays subit une inflation de 164% des prix de l'alimentation. C'est la plus importante du monde. Au Mali, au moins 21 personnes ont été tuées à Djigibombo, dans le centre du pays, dans la région de Biandagara. D'autres sont portées disparues. L'attaque est survenue lundi, en fin d'après-midi, lors d'un mariage. Elle est attribuée au JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda. 2 semaines après l'explosion d'un dépôt de munitions à N'Djamena, les opérations de déminage touchent à leur fin. Selon le génie militaire qui dirige le processus, 95% de la capitale tchadienne est à présent sécurisée. L'explosion a fait 10 morts et 161 blessés le 18 juin dernier. Le coût des réparations a été estimé à plus de 11 millions d'euros par le gouvernement. De gouvernement, il en est plus que jamais question en France, 4 jours avant le second tour des élections législatives. Les Françaises établies à l'étranger peuvent déjà voter sur Internet depuis hier midi et jusqu'à ce soir, 18h. Exemple dans la 10e circonscription qui va de l'Afrique australe au Moyen-Orient, en passant par la région des Grands Lacs et Madagascar. Le duel entre la candidate du Nouveau Front Populaire, Elsa Di Meo, et la députée sortante de la majorité présidentielle, Amélia Lacrafi, s'annonce serré. RFI vous propose d'écouter leur profession de foi, en commençant par celle d'Elsa Di Meo, arrivée en tête lors du premier tour avec 32% des voix.
Je suis la seule candidate qui est réellement installée hors de France. Je réside depuis plus de 2 ans au Cameroun, après avoir résidé pendant près de 8 ans en Afrique de l'Ouest. J'ai dit clairement que je souhaitais proposer une loi rectificative qui permettent d'avoir plus de moyens pour les Français, à la fois dans les aides sociales à l'étranger, à la fois dans le réseau d'éducation français à l'étranger, pour augmenter les différents postes de profs au sein du réseau AEFE. J'ai une proposition qui permettra de recréer un sentiment de communauté nationale de nos Français installés sur les 49 pays de la circonscription. J'ai proposé, dès mon élection, de mettre en place une application disponible pour tous nos concitoyens installés hors de France pour faire le lien permanent et régulier avec la députée de proximité que je serai.
Et députée depuis 2017, Amélia Lacrafi, elle est candidate à sa réélection dans cette 10e circonscription. Elle a obtenu 31% des voix dimanche dernier.
Ce qui compte le plus pour nos compatriotes, c'est, je pense, l'accès aux services consulaires. Parce que quand on est à 10 000 km, c'est très compliqué quand on a un souci du quotidien qu'on n'arrive pas à régler. Donc, c'est toute cette facilité administrative qu'on a commencé et qu'on va continuer pour simplifier la vie. Le texte de loi pour lequel j'étais responsable de texte il y a un mois aujourd'hui, la dématérialisation de l'état civil, va faire que l'état civil ne prendra plus de temps à nos agents, que nos compatriotes pourront faire en ligne tout leur état civil, donc renouvellement de passeport. Et le temps libéré pour nos agents sera du temps pour l'accueil de nos compatriotes. Parce qu'aujourd'hui, les plaintes qui arrivent en masse, c'est « je n'ai pas accès au consulat, je n'ai pas de rendez-vous pour le consulat », que ce soit pour faire un visa à un conjoint ou pour renouveler un passeport. Et ça, c'est très handicapant pour nos compatriotes à l'étranger.
Un propos recueilli par Guilhem Fabry. L'actualité en France, c'est aussi la mort de Roland Dumas hier à 101 ans. Résistant, avocat, homme politique, proche de François Mitterrand, l'ancien ministre avait noué des liens forts et controversés avec le continent avant d'être rattrapé par le scandale de l'affaire Elf. En 2010, âgé de 88 ans, il s'était rendu à Abidjan en pleine crise post-électorale pour soutenir Laurent Gbagbo. Un an plus tard, il avait défendu avec la même virulence le colonel Kadhafi en Libye. Son portrait complet est à retrouver sur notre site www.rfi.fr. Le gouvernement d'Union nationale a prêté serment hier au CAP, exécutif sud-africain composé de 75 ministres et ministres délégués. Une administration pléthorique pour pouvoir contenter les 9 partis qui participent à ce gouvernement de coalition. Le Congrès national africain garde la main sur un ministère d'importance, celui des relations internationales. Il sera dirigé par le jeune et déjà célèbre Ronald Lamola. Son portrait par Romain Chanson.
Le visage de Ronald Lamola a fait le tour du monde quand il s'est rendu à la Cour internationale de justice pour porter les accusations de génocide à Gaza contre Israël. Il était ministre de la Justice et il accompagnait la ministre des Affaires étrangères, qu'il remplace aujourd'hui. Ronald Lamola devrait suivre ses pas. Cet homme de 40 ans est un pur produit de l'ANC. Il était vice-président de la branche jeunesse du parti. Il siégeait donc au sous-comité aux affaires étrangères, un domaine qu'il connaît bien. Il devrait défendre la ligne du parti. Soutien à la cause palestinienne, au peuple sahraoui, amitié avec Cuba, Pékin et Moscou, tout en entretenant de bonnes relations avec les États-Unis ou l'Ukraine. Son homologue ukrainien Dmytro Kuleba a d'ailleurs salué sa nomination sur Twitter. On sait que l'Ukraine cherche des soutiens sur le continent et que l'Afrique du Sud avait tendance à pencher du côté russe au début de la guerre. Mais l'Afrique du Sud défend sa position de non-aligné et se plaît à parler à tout le monde. Un dialogue qui sera nécessaire pour l'organisation du G20 en Afrique du Sud à la fin de l'année 2025. Romain Chanson, Johannesburg, RFI.
Et puis lui n'est plus en poste depuis hier. Rulani Mokwena n'est plus l'entraîneur des Mamelodi Sundowns. Après 4 ans passés sur le banc des Brésiliens de l'Afrique, le technicien de 37 ans a plus ou moins été contraint de partir, Babacar Diarra.
Je ne voulais pas partir, on m'a forcé la main. Les traits tirés, la voix cassée, Rulani Mokwena n'a pas souhaité approfondir dans son seul entretien sur une radio sud-africaine après son départ du poste d'entraîneur des Mamelodi Sundowns. Un déchirement pour celui qui a tout connu chez les Masandawana. Mokwena a coaché dans les catégories de jeunes, assisté le légendaire Pitso Mosimane à la tête de l'équipe Fagnon avant de la prendre en main. D'abord en binôme dès 2020, puis seul, 2 ans plus tard, dans ce club boulimique de titres, le technicien a pu imposer son style et perpétuer l'exigence de trophées, 4 titres de champion, 3 de meilleurs coachs sud-africains et un sacre dans l'édition inaugurale de l'African Football League, le seul sur le plan continental, car son Mamelodi n'aura jamais remporté la Ligue des Champions. Un argument pour le licencier, pas si sûr si l'on en croit la presse sud-africaine qui évoque plutôt des divergences de vues sur le mercato avec le directeur sportif Fleming Berg. Désormais libre, Mokwena ne devrait pas manquer d'offres. Son charisme dépasse les frontières de l'Afrique du Sud. Des clubs et sélections pourraient s'intéresser à lui. Un effet domino n'est pas à exclure non plus avec les cadres du Mamelodi comme le milieu Teboho Mokwena ou l'attaquant namibien Peter Chaloulilé.
Babacar Diarra, il est 5h44 ici à Paris.
Afrique Matin
sur RFI.
Fabien Albert.
À suivre dans la seconde partie d'Afrique Matin, la saison de la mangue pratiquement terminée en Côte d'Ivoire pour valoriser le produit et se réinventer. Certaines usines ivoiriennes se sont lancées dans la transformation du fruit. Reportage à venir. Sous sanctions occidentales, le géant russe de la production de diamants lorgne à l'est et vient d'acheter un gisement d'or dans l'extrême-orient russe. Et puis les dernières informations de Mayotte et de La Réunion dans le journal d'Odanagi, ce sera peu avant 6h. Vous écoutez RFI, il est 4h45 à Tunis. Tunisie traversée par une grave crise politique et économique. Dans ce contexte, les écrivains installés au pays observent ce qu'il se passe. Ces derniers jours, des auteurs de renom, le Congolais Alain Mabankou, et Mabrouk Rachedi ont animé des ateliers d'écriture. Notre correspondante Amira Souilem s'y est glissée pour tenter de comprendre ce qui inspire les auteurs tunisiens en ce moment.
1, 2, 3, on y va. Des exercices d'écriture minutés à la seconde près. En pleine médina de Tunis, le romancier français Mabrouk Rachedi mène son atelier au chronomètre. Premier exercice, écrire une histoire vraie et une fausse.
Il faut que la fausse histoire paraisse vraisemblable, on puisse tous penser qu'elle soit vraie. Mon métier, c'est de raconter une histoire en faisant croire qu'elle est vraie. Ou en tout cas qu'elle est vraisemblable.
Face à lui, des jeunes romancières en devenir, comme Newell.
La culture tunisienne, je trouve que c'est une culture extraordinaire en termes de paradoxe. À la fois, on aime être très moderne, mais on est très conservateur. On est toujours, je pense, dans un dilemme permanent.
Elle, qui a vécu en France pendant de nombreuses années, n'a commencé à écrire qu'à son retour en Tunisie.
Je trouve que déjà la lumière, ça inspire. La société bouillonnante, les échanges humains, le côté humain. En Tunisie, je pense que c'est ce qui a déclenché aussi mon envie d'écrire.
Quelques jours plus tard, toujours en plein centre de Tunis, c'est l'auteur congolais à grand succès, Alain Mabankou, qui fait face à 10 apprentis romanciers. Au-delà des techniques d'écriture, il veut surtout démythifier l'exercice.
Et la peur de commencer qui, chaque fois, nous saisit lorsqu'on écrit un nouveau livre.
Sénégal, Togo, Ghana, Nigeria et maintenant Tunisie, il veut faire sauter les verrous africains.
Beaucoup de jeunes auteurs ici ont des manuscrits, mais ils ne savent pas comment les envoyer à un éditeur ou ils pensent que leur manuscrit n'a pas le même poids que les manuscrits des autres et ils restent comme ça dans une fatalité qui s'installe comme une culture.
Tarak Lamouchi écrit de la science-fiction. Alors que son pays traverse une période mouvementée faite d'instabilité politique et économique, il y puise son inspiration.
Oui, l'angoisse, c'est un moteur de créativité, en fait. Donc, je crois que quand la situation elle est un peu difficile, ça donne des idées. La lecture, ça devient en quelque sorte, pour certains, un échappatoire pour sortir de cette réalité, et même pour les lecteurs aussi.
Première scène intérieure. Des auteurs qui écrivent dans un pays réputé lire peu et qui comptent sur la jeune génération pour changer les habitudes. Amira Souilem, Tunis, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre site www.rfi.fr.
Afrique Matin.
À la une de l'actualité internationale, c'est jour de vote au Royaume-Uni. 650 sièges de députés sont en jeu pour ces législatives anticipées. Les sondages donnent la gauche travailliste largement en tête des intentions de vote après 14 ans de pouvoir des conservateurs britanniques. Le Premier ministre sortant Rishi Sunak en est réduit avec les autres ténors conservateurs à implorer les électeurs de ne pas donner une super majorité à la gauche. En France, le second tour des législatives, ce sera dimanche dans 4 jours. Hier soir, sur BFM, les représentants des trois grands blocs en présence se sont succédés à l'antenne. Ils n'avaient pas trouvé d'accord pour débattre tous en même temps sur le plateau de télévision. Aux États-Unis, de nombreuses voix discordantes continuent de faire part de leurs doutes quant aux capacités de Joe Biden à poursuivre la campagne pour la présidentielle de novembre. D'après le New York Times et CNN, le président candidat réfléchirait lui-même à l'opportunité de maintenir ou non sa candidature. La Maison-Blanche dément catégoriquement. Hier, Joe Biden a reçu le soutien de plusieurs gouverneurs démocrates. Elle va se faire de plus en plus rare dans les rayons. La mangue, la saison touche à sa fin en Côte d'Ivoire, pays qui produit chaque année près de 150 000 tonnes de mangue fraîche. Pour valoriser la filière et limiter les pertes, certains tentent de transformer ce fruit. Reportage auprès d'usines qui se sont lancées dans la transformation de mangue fraîche en mangue séchée. Reportage de Binta Diagne.
C'est une petite usine située dans un quartier périphérique de Ouangoloudougou. Ici, chaque jour, en pleine saison, ce sont 20 tonnes de mangues fraîches qui sont acheminées sur des tricycles par des producteurs de la région. Les mangues sont triées, lavées, puis traitées afin de répondre aux exigences sanitaires des clients. Sita Koulibaly supervise la salle de calibrage.
On enlève les déchets, tout ce qui n'est pas bien. Et puis bon, à la longueur, l'exigence du client qui demande, je veux telle taille, telle taille. Donc par rapport à ça, on trie. Et puis après les tri, les bonnes mangues, on met dans les sachets, on pèse et puis on envoie ça chez le client.
Cette petite usine mise sur l'exportation vers le Ghana, puis l'Europe dans un second temps. Car selon Bazouma Ouattara, le directeur de l'usine de séchage de mangue de Ouangoloudougou, le marché intérieur n'est pas encore réceptif à ce produit.
En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de marché. Les Ivoiriens ne connaissent pas la mangue séchée. Les supermarchés non plus.
Donc vous, vos clients, ils sont où ?
Ils sont au Ghana, c'est HPW. On a un client qui est fidèle et quelle que soit la situation, il prend d'autres mangues.
Pour cet entrepreneur, l'une des difficultés, c'est la maintenance des machines qui, pour l'essentiel, sont importées de l'étranger. Bazouma Ouattara.
Lorsqu'une pièce s'abîme, il n'y a pas le remplacement ici. On ne peut pas acheter, on n'a pas un magasin de vente des pièces en Côte d'Ivoire. Je vais faire appel en Afrique du Sud et la pièce arrive par DHL. Donc vraiment, c'est compliqué.
La période de commercialisation est courte, elle dure à peine 3 mois. Pas évident donc d'investir dans le conditionnement des mangues. Pour contourner cet obstacle, René Yeo, le directeur de l'usine Ivoire Biofruits, a décidé de diversifier ses activités au sein même de son usine.
Il faut à la fois plusieurs machines pour qu'ils puissent faire une grande capacité en moins de 3 mois afin de pouvoir véritablement rentrer dans ces fonds. Au niveau de Ivoire Biofruits, nous avons envisagé diversifier notre système de transformation en essayant d'élargir à d'autres fruits tels que l'ananas, le coco et d'autres fruits tropicaux.
Ce responsable de la profession Intermangue préconise par ailleurs un soutien de l'État au privé afin de développer davantage l'industrialisation de cette filière. Binta Diagne, de retour de Ferke Sédougou, RFI.
Place à votre chronique matière première à présent. Aujourd'hui, Marie-Pierre Olfan s'intéresse à la société russe Alrosa. Le producteur de diamants vient d'acheter un gisement d'or dans l'extrême-orient russe. Une acquisition qui n'a rien d'étonnant pour le minier sous sanctions occidentales.
Les investissements ne se font jamais à la légère et encore moins quand on est une société sous sanctions qui a vu son bénéfice net chuter de 15% l'année dernière. Un bénéfice qui pourrait se réduire encore un peu plus en 2024. Le cœur de métier d'Alrosa, c'est le diamant, mais un diamant qui a perdu de son éclat. Après les États-Unis en 2022, les pays du G7 ont uni leur voix pour interdire à compter du 1er janvier l'importation des pierres en provenance de Russie. Dans ce contexte, l'annonce de l'acquisition d'un nouveau gisement n'a rien d'anodin. Il s'agit de relancer la stratégie de diversification opérée par le groupe russe il y a plusieurs années. Alrosa produit aujourd'hui 180 kilos d'or, mais pourrait atteindre avec le rachat du gisement situé dans l'extrême-orient russe 3,3 tonnes par an. Économiquement, le contexte est porteur. Les prix du diamant ont fortement reculé depuis 2 ans, alors que ceux de l'or ont flambé. Le marché de l'or est par ailleurs réputé plus liquide que le diamant, c'est-à-dire que les transactions y sont plus faciles, moins coûteuses et donc plus nombreuses. Le patron d'Alrosa n'a pas caché qu'en élargissant son portefeuille, il cherchait à accroître la stabilité financière à long terme de son entreprise. Il ne faut pas oublier également qu'Alrosa possède une ligne de bijoux. Produire plus d'or lui permettra d'augmenter son approvisionnement direct. Un industriel du secteur résume, c'est une opération raisonnée. Alrosa a l'expérience nécessaire et l'investissement consenti n'est pas énorme à ce stade. Un investissement qui a peut-être été facilité par les liquidités injectées par le ministère des Finances de Russie. Pour remettre le groupe à flot, l'État rachète en effet depuis le début de l'année une partie des diamants d'Alrosa.
Une chronique matière première de Marie-Pierre Olfan. Vous écoutez RFI, il est 7h54 à Saint-Denis de la Réunion. On rejoint nos collègues de la première pour l'information à Mayotte et à la Réunion. L'île française située à l'est de Madagascar où une fois n'est pas coutume, c'est un fait divers qui fait la une. Une joggeuse a été attaquée par des chiens errants. Bonjour Odane.
Bonjour. Une femme d'une quarantaine d'années a porté plainte pour blessure involontaire cette semaine après avoir été attaquée par 3 chiens dans la forêt de l'Étang Salé. C'est à l'ouest de l'île de la Réunion. Scène d'une grande violence qui l'a laissée blessée et sous le choc. Et une affaire qui soulève une nouvelle fois la problématique de l'errance animale dans le département. La CIVIS, communauté intercommunale des villes solidaires, tente de régler le problème. Une nouvelle opération s'est tenue hier. Reportage Suzette Emma.
La forêt de l'Étang Salé, on intervient assez régulièrement.
Et plus encore depuis l'attaque des chiens errants sur une jogueuse, les agents de la CEMRE en charge de la gestion des animaux errants pour le compte de la CIVIS ont mené ce matin une opération de capture. Eddy Turbi, responsable de l'activité environnement animalier.
Maintenant, la problématique dans les zones telles que la forêt de l'Étang Salé, c'est que justement c'est une forêt et que c'est un milieu ouvert. La récupération de ces animaux-là est un peu plus compliquée.
Une trentaine de chiens divaguent dans la forêt de l'Étang Salé et représentent parfois un danger.
Pour le cas qui nous concerne, il semblerait que ces animaux-là soient sédentarisés, des animaux qui sont donc nourris sur le site par des gens qui pensent faire une bonne action, mais malheureusement ça les regroupe, ça crée la meute et on peut se retrouver face à des situations comme celle qui est arrivée dernièrement.
Il ne faut donc pas nourrir les chiens errants dans la forêt et les autorités appellent au civisme des propriétaires. Pour rappel, l'abandon d'un animal domestique considéré comme une maltraitance est puni de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende.
Un reportage de Suzette Emma, Réunion la première. C'était une figure des anciens combattants maorais, annonce ce mercredi du décès de Ali Mohamed Bouéna. Le commandant Bouéna avait marqué l'histoire de l'île en devenant le premier officier maorais de l'armée française. Abdou Amissi Ibrahim, vice-président de l'association des anciens combattants de Mayotte, lui rend hommage.
Très bouleversé, commandant Bouéna, membre honoraire de l'association de l'Union nationale de combattants. C'est lui qui a créé l'association avec M. Biava. Donc depuis, on continue à l'alimenter, à l'animer de ce qu'on peut, mais en tout temps se basant de ce que eux ils ont laissé. Donc c'était la solidarité et l'aide sociale qu'on continue à le faire auprès de ressortissants et les veuves des anciens combattants.
Et puis début des vacances scolaires ce vendredi, alors pour faire face à l'affluence en vue à l'aéroport Roland-Garros de Saint-Denis de la Réunion, un dispositif spécial va être mis en place pendant plusieurs jours de la semaine cet été. Et ça commence dès vendredi, Delphine Gérard.
Chariot débordant de bagages, ce couple de Mauriciens attend devant la file d'embarquement.
C'est la première fois que je viens. Je n'ai pas d'expérience comment ça déroule. J'attends encore là, il y a encore des personnes qui vont venir.
En moyenne à La Réunion, on compte entre 4 à 5 accompagnants par passager, ce qui peut gêner en période de forte affluence. Leur présence sera donc limitée en zone d'embarquement à partir de vendredi. Les explications de Stéphane Courtois, directeur d'exploitation de l'aéroport de La Réunion.
Sur les journées qui sont considérées comme sensibles en termes de programme de vol, donc les mercredis matin, vendredi matin et samedi matin, on met en place ce qu'on appelle le dispositif forte affluence. Donc l'entrée au niveau de la zone enregistrement et uniquement de la zone enregistrement sera filtrée. Donc seuls les passagers pourront accéder à l'enregistrement. Et ensuite, ils vont retrouver leur famille dans le hall public avant donc de se dire au revoir au niveau des formalités de police.
Les mercredis, vendredis et samedis, le nombre de vols est presque doublé. En juillet-août, ce sont 550 000 passagers qui sont attendus.
Ce qu'on demande également aux passagers pendant toute la période des vacances, c'est d'anticiper leur venue à l'aéroport, donc d'arriver tôt, de s'enregistrer en ligne.
Et pour accueillir au mieux les voyageurs, un renforcement des effectifs de personnel aussi est prévu. Ce dispositif exceptionnel restera en place jusqu'au 1er septembre.
Et c'est la fin de cette édition. Très bonne journée.
Très bonne journée à vous également, Odane Agi. C'est la fin de cette demi-heure consacrée à l'actualité du continent. Merci à Oscar Jouxtel à la réalisation, Vincent Dublange à la rédaction en chef. Dans une minute, un peu plus d'une minute, le début de RFI Matin avec Arnaud Pontus. Arnaud, bonjour, quel est le programme ce jeudi?
Bonjour Fabien Albert, on parle d'élections législatives ici et ailleurs, si je puis dire. Les élections législatives au Royaume-Uni d'abord, puisque c'est jour de vote. Les bureaux de vote ouvriront dans 2 heures maintenant. À Londres et ailleurs, les Britanniques votent pour élire leur Parlement et leur futur gouvernement. Tous les sondages prédisent la défaite des conservateurs. Et puis on continue de suivre, bien sûr, la campagne pour les élections législatives en France. Second tour dimanche, dans 3 jours donc. Reportage et invité encore ce matin dans RFI Matin.
L'Afrique en jeu, Sylvain-Henri Cissé.
L'olympisme au cœur de l'été parisien. Mais quels engagements à l'international pour Paris 2024? Quelle politique de coopération, de partenariat, de solidarité de Paris 2024 avec l'Afrique? Des réponses à ces questions avec Sophie Laurent, directrice des relations internationales Paris 2024.
L'Afrique en jeu avec Silver Henri Cissé, tous les samedis à 11h30 TU sur RFI.
Session Lab avec Hortense Vol.
Elle a une voix tout en dentelle, en transparence. Et pourtant, c'est par le rock'n'roll qu'elle a débuté. La diva espagnole au 18 albums Luz Casal est dans Session Lab.
Retrouvez Session Lab avec Hortense Vol ce dimanche à 14h10 TU sur RFI. Et dès maintenant en podcast, en audio 3D, sur toutes les plateformes.